Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble pendant une heure jusqu'à 20h pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine. Le tout accompagné de sportifs de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les mythiques coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Didier Rubio nous donnera les conseils santé. Lucas Serdic, l'agenda de la semaine et aujourd'hui le débat avec la saison de cyclisme. Enfin, nous recevrons Lionel Mpassi, gardien de but au Rodez Aveyron Football, promu en Ligue 2 la saison prochaine. Avec nous ce soir, Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Jean.
Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Et Lucas Serdic. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Messieurs, bonsoir.
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 Dans une radio très très vide. C'est vide la radio là, ça fait bizarre non?
Oui, mais ce qui est bien c'est que le périphérique toulousain aussi est vide.
C'est pour ça que vous êtes à l'heure?
C'est pour ça que je suis à l'heure, même en avance. Je sais pas si vous avez remarqué Jean, mais j'étais en avance.
C'est vrai, on va l'expliquer bien évidemment, vous le savez, c'est lundi de Pâques, c'est férié. Donc personne ne travaille ici à la rédaction, même à la radio, sauf nous. Voilà, nous étions pas là la semaine dernière, donc on a dit bon allez, on vient quand même cette semaine. Timothée Rouvière, ça vous gêne pas de venir travailler un férié, un jour férié?
Non, moi j'étais sur Toulouse, je me suis dit allez, on va donner un peu de plaisir aux auditeurs en parlant de sport, tout simplement entre nous et voilà.
Ça, c'est pas du travail.
C'est du plaisir. C'est un petit peu de travail quand même, mais c'est du plaisir
surtout.
Et je me tourne vers notre réalisateur de l'émission, Grégoire Dubois.
Bonjour.
Bonjour Grégoire. Mais c'est vrai qu'avec Mehdi Guillonneau, quand vous êtes arrivé, on était mort de rire parce que Johnny Hallyday est arrivé à Radio Présence, c'est-à-dire la veste en cuir, les lunettes noires et ça marche avec les bras écartés, magnifique.
Alors c'était pas voulu, mais pourquoi pas,
hein,
réincarnation ce lundi de Pâques.
Ah ouais, mais
transformé par.
Allez, ça c'était vraiment fantastique quoi.
Bon bah je le referai.
Parfait, lundi prochain.
Très bien.
Et je me tourne vers vous, Mehdi Guillonneau. Vous arrivez une petite mésaventure en allant au stadium.
Disons que la route était glissante et j'ai eu le malheur de glisser sur une bande blanche en vélo. Et j'ai un peu, toute une partie du corps égratignée, mon épaule, etc.
On n'a pas vu ça.
C'est les risques du métier.
Je suis arrivé un quart d'heure en retard à cause de ça. Je ne suis pas allé voir Jean, du coup, qui était présent au match.
Je vous rassure. Vous n'avez rien loupé pendant un quart d'heure.
C'est ce que j'allais dire. Valait mieux regarder le quart de finale du Stade Toulousain.
C'est ce que j'ai fait.
Ouais.
Mais pas avec le même résultat au bout. Hein.
Oui, malheureusement, on va en parler sûrement tout à l'heure dans l'agenda avec Lucas Serdic où le Stade Toulousain s'est arrêté en demi-finale de la Coupe d'Europe. Bon, tout le monde est en place. On peut démarrer maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule.
Comme chaque lundi, vous nous parlez d'un événement sportif qui vous a marqué, un exploit, une déception ou autre. Je me tourne vers Timothée Rouvière. On va commencer bien évidemment avec un coup de cœur. C'est sur le tennis, la Fed Cup, l'équivalent de l'ancienne Coupe Davis féminine, où l'équipe de France s'est qualifiée pour la finale aux dépens de la Roumanie hier.
Alors oui, tout à fait. Alors, au départ, moi, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, France-Roumanie avec Simona Halep... côté roumaine, ça va être très compliqué pour une demi-finale, surtout avec les relations un petit peu conflictuelles entre Caroline Garcia et Kristina Mladenovic et un nouveau coach avec Julien Beneteau. Mais l'équipe de France qui s'est qualifiée de manière brillante, donc à la fin du samedi, il y avait un partout avec la défaite de Kristina Mladenovic contre Simona Halep, qui est quand même numéro 2 mondial, et la victoire de Caroline Garcia ensuite. Simona Halep qui regagne derrière contre Caroline Garcia au terme d'un match assez épique. Et Pauline Parmentier, un peu appelé de dernière minute, c'était Kristina Mladenovic ou Alizé Cornet qui sont pourtant mieux classés qui devaient jouer, et Pauline Parmentier qui remporte une belle victoire 2-2 et donc le fameux double avec Kristina Mladenovic et Caroline Garcia, dont on savait les relations un petit peu tumultueuses. Elles s'étaient séparées après avoir gagné Roland-Garros. On savait qu'il y avait eu l'histoire de la robe aux Jeux Olympiques. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Mmh. Et Julien Beneteau a fait un gros pari en les lançant toutes les deux. Et avec le résultat qu'on connaît. Et donc la finale sera contre l'Australie. Attention quand même à l'Australie, qui même si elle n'a pas des très bonnes joueuses, on pense à Stosur qui est vieillissante ou Barty. Voilà, attention, ça sera en novembre prochain. Mais il y a une belle possibilité d'aller chercher près de 3 ans après la la défaite contre les Tchèques en 2016.
Ça ferait du bien à l'équipe de France de remporter la Fed Cup.
C'est un joli rebond en tout cas, oui, pour ce tennis féminin français qui est quand même vraiment moribond depuis plusieurs années. On a des coups d'éclat de Kiki Mladenovic, de Caroline Garcia, mais on n'a pas vraiment de continuité, pas vraiment de valeur sûre, on va dire. Peut-être que via cette Fed Cup, nos deux joueuses de phare un petit peu vont retrouver, je sais pas, de l'allant, de la consistance. Il y a des joueurs comme ça qui arrivent à se sublimer en Fed Cup ou en Coupe Davis et qui après restent sur leur lancée. Peut-être que ça va leur sourire à nos deux Françaises. En tout cas, à quelques semaines de Roland-Garros, on va pas s'en plaindre.
Justement, j'allais y venir sur Roland-Garros. C'est quand même, c'était sur terre battue. Ça permet d'être dans le rythme, même si c'est, attention, bien évidemment, deux compétitions mais totalement différente.
Alors oui, ça permet d'être dans le rythme. La vraie différence avec ce qui s'est passé pendant la demi-finale ce week-end, c'est qu'on sent vraiment une osmose entre ces joueuses de l'équipe de France qui ne surperforment pas non plus en individuel et qui arrivent à créer quelque chose en équipe. De là à dire que Roland Garros, voilà, ça permet de se mettre en condition. Oui, ça permet de se mettre en condition, mais moi je suis loin d'imaginer une possible bonne figuration de Caroline Garcia ou Kristina Mladenovic à Roland Garros. Le niveau est très loin.
Le coup de chapeau, moi j'ai envie de le donner à Julien Beneteau, vraiment qui a construit cette équipe là et qui leur fait croire que voilà, que c'est possible ensemble, et réunir Mladenovic et Garcia, c'est vraiment pas une mince affaire. Ils se sont pas parlé pendant pratiquement un an et demi, il me semble. Je trouve que l'exploit est là, et l'équipe, il y a pas beaucoup d'équipes au monde qui ont deux joueuses de niveau ne serait-ce que correct. Souvent il y a une comme la Roumanie avec une très bonne joueuse, et c'est notre cas à nous, et il arrive à nous en faire profiter, et bravo à lui.
Et l'équipe de France attend ce titre en Fed Cup depuis 2003 avec Amélie Mauresmo, avec Marie Pierce. Ça fait un moment quand même que le tennis féminin est à la recherche
en même temps, de ça, quoi. Ça fait un moment aussi que les filles du côté français, on n'a quand même pas grand monde. Voilà, depuis la retraite d'Amélie Mauresmo, c'est quand même particulièrement compliqué. Voilà, ce que je note, c'est qu'effectivement Julien Beneteau a réussi à faire quelque chose, un peu comme Yannick Noah l'a fait chez les gars. On est un des seuls pays où comme ça, ce sont les capitaines qui ont vraiment beaucoup d'importance. Tant mieux pour nous. On se différencie là-dessus. Voilà, souhaitons que ça continue.
Pour finir là-dessus, c'est quand même paradoxal que les équipes de France, bon, alors là en ce moment les féminines marchent bien, les hommes ont fait deux finales de suite, une perdue malheureusement l'année dernière et une est gagnante il y a deux ans, mais sur le plan individuel, pareil, c'est toujours entre guillemets, et sans faire offense aux joueurs, c'est à la ramasse comblée, quoi.
Sur le plan individuel, c'est toujours compliqué. Après, est-ce qu'il faut pas avoir une réflexion au sein de la Fédération Française de Tennis pour créer vraiment un pôle avec cette équipe de France? On sait qu'au tennis, c'est un joueur qui a son staff avec son entraîneur, son kiné, son médecin. Là, le fait de voir que l'équipe de France a une équipe autour d'elle avec un capitaine, des médecins, un kiné, et que là, ça marche bien en Coupe Davis et en Fed Cup, voilà, à creuser.
D'autant qu'on manque pas de bons coachs.
C'est pas faux.
Il y en a. Gardez la parole, Lucas Serdic. Je me tourne vers vous pour votre. Alors, c'est bizarre. C'est mi-coup de cœur, mi-coup de gueule. C'est sur le vélo l'Amstel Gold Race.
Exactement. Qui avait lieu hier aux Pays-Bas. Et une course qui était vraiment, ébouriffante un petit peu, voilà, j'ai envie de dire, qui sortait de l'ordinaire, qui sortait de ce qu'on a pu connaître sur cette course qui est une. Enfin, c'est une classique, mais ça fait pas partie des cinq grands monuments. Mais elle lance la semaine des Ardennaises, voilà, qui va atteindre son point d'orgue dimanche prochain avec Liège-Bastogne-Liège. J'ai un coup de cœur parce qu'on a eu voilà une course qui sortait de l'ordinaire, et malheureusement ça a pas souri du coup à notre Français. C'est un peu lui qui a payé les pots cassés de ça. Julien Alaphilippe qui s'est fait rattraper avec son compagnon d'échappée, le Danois Jacob Fuglsang, dans les derniers hectomètres, rattrapé par des fusées, voilà, littéralement Kwiatkowski dans un premier temps, et puis ce qui restait du peloton, et notamment ce fameux Mathieu Van Der Poel, 24 ans, qui est un véritable phénomène, une bombe qui débarque dans le cyclisme sur route, parce qu'il est déjà bien connu de ceux qui suivent le VTT, voilà, comme une espèce de fusée, a doublé tout le monde. Julien Alaphilippe s'est retrouvé malgré lui à devoir faire un petit peu la course à la fin, parce que voilà, Fuglsang, il avait déjà été échappé avec lui, notamment sur l'Estrade Bianchi, et puis il a pas envie de se faire avoir une deuxième fois, donc il courait à l'économie. Julien Alaphilippe, du coup, voilà, n'a pas su comment gérer, il a perdu la main, il a laissé les autres revenir, et voilà, ce jeune néerlandais incroyable l'a coiffé sur le poteau. C'était une très belle course, malheureusement c'est notre Français qui qui en a subi les conséquences.
C'est l'expérience qui rentre pour Alaphilippe, Timothée Rouvière ?
Alors, c'est l'expérience qui rentre, oui, mais moi je me pose quand même une question, c'est que Alaphilippe et Fulsang, ils comptaient près de 47 secondes d'avance à 5 km de l'arrivée, et ils se sont fait rattraper. Alors oui, ça roulait plus fort derrière, il y avait Van Der Poel, etc. Mais Julien Alaphilippe, quand il est arrivé à l'arrivée, il a dénoncé surtout des erreurs de chronométrique. Donc est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Est-ce qu'il s'est arrêté de rouler dans le dernier kilomètre, ce qui a permis de revenir à l'arrière? Je sais pas, oui, c'est le métier qui rentre sûrement. Après, il peut pas gagner partout, hein.
Des erreurs chronométriques, ça me paraît un peu trop gros. Moi j'ai bien vu, enfin je sais pas si tu l'avais regardé en direct, si, si. Cette course, moi je l'ai bien vu en direct. Il y avait une différence énorme de rythme quand on voit Kwiatkowski arriver. C'est un boulet de canon.
Et à ce
rythme là effectivement, les secondes elles se perdent pas en quelques kilomètres, elles se perdent en quelques dizaines de mètres, ça va très 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 vite, et ils n'avaient pas non plus 3 minutes d'avance.
Oui, oui.
Ils avaient une quarantaine de secondes d'avance, effectivement, à 3-4 km de l'arrivée, ça peut se perdre très 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 vite. Quand on a des coureurs comme Kwiatkowski derrière, c'est pas n'importe qui.
Mehdi Guiono.
Il était quand même encore là. Il était encore dans une finale de Grand Classique.
Oui, toujours.
Mais c'est quand même extraordinaire qu'il soit encore là, quoi.
On va en parler, dans le débat tout à l'heure.
Surtout qu'il y a une grosse semaine avant, il avait une chute très sévère autour de Pays Basque qu'il a fait abandonner alors qu'il était vraiment en pleine forme. Il avait gagné l'étape la veille. Et il revient et il attaque de loin. Et ça, voilà.
À mon avis,
ça lui a coûté cher dans le final parce qu'il manquait un petit peu de jus.
Il part très loin.
Peut-être qu'il aurait dû rester un petit peu temporisé dans cette course, mais bon, c'est son tempérament.
Sur les Français, Romain Bardet qui revient bien avec sa chute autour de Catalogne, c'est pas trop mal. Et surtout Valentin Madouas, 22 ans, qui se révèle et qui a l'air à l'aise dans les bosses.
Ouais, il est encore là, ce Valentin Madouas. C'est vraiment, effectivement, sur les classiques cette année, il explose. Ouais.
On va en parler tout à l'heure, hein. Ce sera le débat de la soirée sur le cyclisme et l'actualité du cyclisme mondial, bien évidemment, avec en point en mois de juillet le Tour de France. Je me tourne vers vous, vers Mehdi Guiono pour un coup de cœur sur les playoffs de basket, mais là c'est le Graal, c'est la NBA là.
C'est ça, c'est la NBA, c'est le début des playoffs. Depuis le week-end dernier, en fait, on n'a pas fait l'émission lundi, j'en aurais déjà parlé. Donc là, il y a eu une semaine depuis le début des playoffs, mais c'est un régal parce qu'il y a eu 82 matchs de saison régulière. Ça peut être un peu long, il y a des matchs qui jouent un petit peu moins, etc. Là, toutes les équipes, elles sont obligées de jouer les matchs à fond. Les stars, elles arrivent à 100% pour ces matchs-là. Et le spectacle s'en ressent, il y a de la tension. Alors, on n'a pas eu encore trop de grands scénarios. Il y a eu deux trois gros matchs. Il y a eu deux exemples. C'est le Philadelphie-Brooklyn de ce week-end où il y a eu des joueurs éjectés. Il y a eu ce qu'on appelle le trash talking, c'est-à-dire que les joueurs se chambrent en gros en plein match.
Mais aussi, Dudley, c'est ça. Hein.
C'est ça, Embiid, Dudley et Simmons aussi, des Sixers. Et même à côté des matchs, ça se parle. Et en fait, les équipes se jouent tous les 2-3 jours. Donc, toutes les équipes connaissent les failles des uns des autres. Et ça se joue vraiment à des détails. Et c'était magnifique ce match-là. En plus, donc, avec les expulsions des joueurs, on sentait vraiment la tension. Et il y en a un autre qui a concerné les Warriors, qui ont fini premier de la saison régulière, qui sont les favoris de la NBA, où il y a Curry, Durant, les meilleurs joueurs du monde. Et ils se sont fait remonter de 31 points à la maison en un quart-temps. Il menait 31 points juste à la fin du troisième quart-temps, quelques minutes.
C'est énorme. Hein.
C'est exceptionnel. C'est le record. C'est un record NBA. Ça n'était jamais arrivé en playoff. Et c'est les Los Angeles Clippers qui, eux, n'ont pas forcément de grandes stars, qui ont réalisé cet exploit.
Ah, ils font une super saison, les Clippers.
Voilà. Et c'est le genre d'exploit que seule la NBA peut nous offrir. Et c'est juste magnifique.
Oui. Lucas Cerdic, le niveau de la NBA augmente d'année en année. Mais cette année, c'est particulier. On ne sait pas comment juger la saison.
Moi je vais plutôt justement, malheureusement, pas aller dans ce sens-là. Je trouve pas que le niveau augmente, vraiment pas. Ce qui est sûr, c'est que la façon de jouer change. On a beaucoup moins de défense, à mon sens. On a quand même beaucoup plus de... C'est quand même de plus en plus du show, c'est sympa, hein. Mais pour moi, en playoff, il faut un petit truc en plus. On commence à l'avoir. Moi, j'étais très inquiet des premiers matchs. Tu parlais de la série entre Philadelphie et Brooklyn. Si t'as vu le premier match,
145 et quelques.
Si t'as vu le premier match, j'étais inquiet pour l'NBA parce qu'il y avait que des tireurs qui s'essayaient et qui étaient absolument, qui étaient pas bons, qui étaient pas sur lesquels on défendait pas. Enfin, c'était des séquences de 10 secondes, 3 pas, c'est terminé. Je veux dire, à quoi ça sert de mettre 24 secondes maintenant? Ça sert plus à rien. Les équipes de toute façon développent pas de jeu. Mais enfin, c'est ce qu'on aurait pu croire si on s'était arrêté là. Effectivement, ça commence à venir. On gagne pas la NBA en faisant que des séquences de 10 secondes, je pense pas. Mais voilà, j'espère que ce genre de match, on devra pas attendre à chaque fois les gros matchs de playoff pour les voir dans ce sens-là, quoi.
Mehdi Guiono pour conclure.
juste l'attaque peut faire gagner des matchs, mais en général à NBA on dit que c'est la défense qui fait gagner des titres.
Et c'est paradoxal.
Dans les gros matchs, je pense qu'on verra ça. Juste un point sur les, il y a seulement 3 Français qui jouent les playoffs et ça se passe plutôt très mal pour eux, puisqu'Evan Fournier avec Orlando il menait 3-1 pour Toronto, il a baissé c'est 2 points sa moyenne, ouais. c'est quasiment terminé. Il passait de 15 à 13 points et Rudy Gobert pareil. On pouvait en entendre mieux du Jazz, de Utah Jazz, qui perd 3-0 contre les Rockets. Mais bon, les Rockets, c'est peut-être les outsiders numéro 1, justement, des Warriors. On verra au prochain tour. Et le dernier, c'est Gershon Yabusele, qui lui est qualifié avec Boston, mais qui joue jamais.
Voilà. On verra bien, là, on continuera de suivre bien évidemment hein, la saison de NBA. Nous, messieurs, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite.
Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croisait cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller, tu le fais, crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé, il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis, comme souvent seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit, il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé, c'était à cette soirée que t'allais la rencontrer. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Elle aurait dû y aller, tu le fais, crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret.
C'était Big Flo et Oli sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé avec vous, Didier Rubio. On va parler, alors après avoir parlé des fruits oléagineux, des graines oléagineuses et des baies, on va rester un petit peu plus ou moins dans le même thème. On va parler tout simplement des fruits secs, abricots secs, raisins secs, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Bonsoir Jean. Alors, on est dans la série, en fait, depuis 3 semaines, on parle finalement de fruits, globalement, on va dire, c'est pour simplifier, dépourvus d'eau, puisque visiblement, on est dans des fruits qui sont oléagineux, où il n'y a pas d'eau. Les fruits secs, eh bien... À la différence des fruits frais, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Donc, on va comprendre rapidement que leur volume est plus petit. Donc, c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est pratique. Mais par contre, ça va concentrer tout ce qu'il y a dedans puisqu'on a enlevé l'eau. Donc, ça sera plus riche en calories.
C'est mieux ou pas ?
Bah oui, d'un côté, c'est mieux. Toujours pareil avec la retenue de ne pas en surconsommer non plus, parce que forcément, ça va être quand même plus calorique. Je me suis rendu compte juste que j'avais oublié de parler la semaine dernière de choses qui pourraient intéresser sur quelques baies, là. Je reviens juste.
On revient sur les baies.
Ouais, deux secondes. C'était parce que j'avais oublié de parler des mûres blanches qui sont très en vogue actuellement, qui sont très intéressantes pour tout ce qui est vitamines, hein, vitamine C, le fer, magnésium, et également les griottes. Et actuellement aussi, on pourrait parler du jus de griotte, ça je le conseille beaucoup. Comme le jus de betterave, jus de griotte, c'est des finalement quelque chose qui va être intéressant vraiment sur le plan antioxydant. Bref, je ferme la parenthèse.
Bon, et on va au moins, c'est bien de le rappeler, mais comme ça nous permet de rappeler ce qui s'est dit la semaine dernière.
Exactement. Donc, fruits secs, on va trouver des abricots, des figues. Bon, là, j'apprends rien à personne, mais ouais. C'est assez
connu. C'est bien de le rappeler.
Mais c'est bien de le rappeler. Par exemple, des dattes aussi, et après, tout un tas de fruits qu'on va trouver qui vont être séchés ou déshydratés.
Le fait que ce soit séché, déshydraté, comme vous venez de le dire, quel est l'intérêt pour un sportif, justement, de manger ça plutôt qu'un fruit normal, entre guillemets, un abricot normal, plutôt qu'un abricot sec?
Ouais, très bonne question, Jean. En fait, on ne peut pas les comparer, donc du coup, c'est pas où.
C'est presque pas le même fruit, finalement.
Non, ça a plus rien à voir, c'est-à-dire qu'un fruit frais, lui, il va avoir donc de l'eau. Et par exemple, ce qui est le plus connu, c'est la vitamine C. Donc ça, c'est très important. Mais par contre, dans les fruits secs, il n'y en aura plus.
D'accord.
Forcément, puisque la vitamine C, elle aura été détruite complètement.
Mais on trouve autre chose.
Mais voilà, on va trouver du magnésium, du potassium et du calcium aussi. Et pour le sportif, comme les minéraux, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est surconsommé, en fait, hein, par l'activité physique. Les fruits secs, ça permet d'avoir une récupération précoce, comme on l'avait évoqué l'autre fois, au décours de l'exercice, consommer des raisins secs, des abricots, des dattes, ça c'est super. Au petit déjeuner aussi, ça complémente vraiment un bon petit déjeuner. Moi je conseille des raisins secs par exemple, des pruneaux, c'est très très riche en fibres, donc aussi pour le transit intestinal quand on a tendance à avoir peut-être un peu de constipation, c'est aidant, donc ça fait partie de la stratégie. Encore une fois, c'est petit en volume, donc ça se met dans un sac, c'est facile à emporter. Moi je conseille énormément les fruits secs, ça c'est certain. Avec, encore une fois, si on va sur la qualité, puisque souvent on va sur la qualité.
Toujours bio.
Vous le savez bien, Jean.
Oui.
Par exemple, pour les dattes, vraiment, il faut choisir des dattes bio. Et de fait, il ne faut pas choisir celles qui paraissent les plus jolies spontanément. C'est-à-dire que dès que
On veut souvent faire ça.
C'est ça.
Il y a un problème sur ce fruit, on ne le prend pas.
C'est ça, exactement. Mais lorsque les dattes, en fait, brillent, c'est qu'elles ont été traitées avec du bromure de méthyle. Et donc, ça, ouais, potentiellement, ce n'est pas très intéressant. Alors qu'une datte qui a une couleur un peu, comment dire, aidez-moi.
C'est un peu sale.
Un peu simple, quoi. Ouais. Qui ne brille pas. Elle, par contre, c'est sûr qu'elle sera gage de qualité.
Le fait de manger tous ces fruits secs, ça reste des fruits. On dit que les fruits, c'est bon pour la santé, mais est-ce qu'il faut faire attention à un excès? Est-ce que l'excès peut être un danger?
Oui, parce que manger entre 20 et 50 grammes de fruits secs par jour, oui, ça va. Manger 100, 200 ou 300 grammes de fruits secs en sucre, ça va faire quand même beaucoup de sucre. Donc non, il y a quand même une raison à garder avec ça. Et après, c'est vrai qu'on connaît très bien les fruits secs lorsqu'on fait de la montagne, parce qu'on amène ça, c'est pratique. Mais moi, je ne le réserve pas qu'à la randonnée, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut manger tous les jours. Juste pour finir, la fabrication des fruits secs, elle se fait de deux manières. Ça peut être séché naturellement, mais souvent, bon, c'est quelque chose qui est déshydraté. Et souvent, le conservateur utilisé va être des sulfites. Donc là encore, je mets juste en garde s'il y a des gens qui sont sensible au sulfite, hein, que l'on trouve dans, par exemple, le vin, des condiments, c'est le E220. Quand vous regardez, si vous êtes sensible au E220,
faut éviter, ouais.
Avec les fruits secs, il faut un peu éviter, ou alors aller chercher des fruits secs qui ont été séchés naturellement, bio et sans sulfite. Voilà. Mais je reste sur du positif, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant.
Didier Rubio, merci.
Avec plaisir, Jean.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic, et une actu, encore une fois, bien chargée. Et comme d'habitude, on commence avec le rugby. Mauvaise nouvelle pour le Stade Toulousain.
Oui, le Stade Toulousain, c'est la fin de l'aventure en Coupe d'Europe. Défaite 30-12 au Leinster en demi-finale de la Champions Cup. Voilà, c'était un beau parcours pour nos Toulousains quand même, qui vont pouvoir maintenant se concentrer sur le top 14 et une belle affiche qui les attend. Un derby. Castres-Toulouse, ce sera samedi à 16h15. phase à suivre, donc soit à Pierre Fabre, soit sur Canal+. L'affiche de cette journée de Top 14, de la 23e journée, est-ce qu'on parierait pas, messieurs ?
On peut.
On peut, hein,
on
parce
peut,
que Castres-Toulouse, ça peut donner envie quand même. Castres très en forme, je tiens à le dire.
Et
voilà.
C'est surtout que c'est la dernière défaite du Stade Toulousain en Top 14 avant Toulon.
Oui, avant Toulon, effectivement.
C'est ce qui a marqué le début de
la série, effectivement, et c'était à domicile, donc les Toulousains auront peut-être un esprit de revanche, surtout qu'effectivement, voilà, maintenant qu'ils sont sortis de la Coupe d'Europe. Donc voilà, qui commence ?
Allez, Timothée Rouvière, on commence par vous. Castres-Toulouse, c'est le pari de la semaine pour...
Moi, je pense que ça va être compliqué pour Toulouse, ils vont avoir du mal à s'en remettre, et Castres a vraiment besoin de points dans l'optique de la qualification. Moi, je vois une défaite toulousaine, je dirais 15... Allez, 15 pour Castres et 6 pour Toulouse.
15 à 6 pour Castres, Mehdi Guillonneau.
Moi, j'ai pas le droit de donner autre chose que Castres vainqueur, 27.
27.
Alors, on a envie de savoir pourquoi là, oui, qu'est-ce qui se passe ?
Parce que j'ai un pote d'enfance qui joue à Castres, Anthony Gelonge, tout simplement.
Ah oui !
Et que j'ai pas le droit de parier contre lui, tout simplement.
Combien on a dit ?
27,
ok.
Bon bah moi on sait tous que je suis à la ramasse depuis le début de l'année pour les paris, donc vu que je veux que le Stade gagne, victoire de Castres 30 à 15. Comme ça fait large victoire pour Toulouse.
Bon bah dans ce cas je vais parier sur Toulouse moi. Je vais dire 22 Stade Toulousain, 15 pour Castres Olympique.
Donc que des victoires à petit score à part moi, mais on va dire que moi ça compte pas, c'est ça.
Voilà. On a un autre match en Top 14 qui va nous intéresser, c'est Pau qui va accueillir le Racing. Pau, voilà, c'est dommage que notre réalisatrice ne soit pas là pour commenter la raclée qu'ils ont pris il y a une dizaine de jours, 71-21 à La Rochelle. Non mais blague à part, Pau ça va pas très bien. Ils sont à 6 points de la 13e place barragiste, donc attention à Pau qui accueille donc le Racing, une équipe qui joue pour se qualifier samedi à 14h45. On parle de Pro D2 parce qu'on approche de la fin aussi du dénouement. Ce sera la 29e journée ce week-end. Vendredi à 20h, Carcassonne accueille Provence, le 11e contre le 10e. Carcassonne qui reste sur une lourde défaite à Brive, 54-17. Il y aura un match une demi-heure plus tard qui sera très intéressant à suivre. Ce sera Montauban contre Nevers. Montauban est 12e. Nevers 6e et vise la montée clairement. Donc attention à cette réception pour Montauban qui va pas bien. Ils ont perdu 25 à 20 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse la semaine dernière, qui est la lutte pour le maintien avec Colomiers, l'autre équipe qui nous intéresse fortement et qui joue dimanche à 14h15 face à Angoulême. Colomiers 14e, pour l'instant on n'est pas dans la zone rouge, mais attention.
C'est tout proche. Et un mot de Fédéral 1 avec un choc.
Un mot de Fédéral 1, non mais si Maxime Brossard était là, plusieurs mots de Fédéral 1, puisqu'on a les quarts de finale aller du trophée Jean Prat, c'est-à-dire que celui qui gagne le trophée Jean Prat monte en Pro D2, qui
les
commence, et le finaliste,
les deux, je crois
qu'il y a un barrage après, il me semble, avec contre le 15e de Pro D2. Bon bref, ce sera vendredi à 20h45, l'affiche pour Blagnac qui reçoit Bourgoin qui a caracolé en tête de sa poule. Donc attention pour les Blagnacais, ça va être difficile. Ils ont perdu ce week-end, mais c'est une défaite anecdotique. Ils ont joué pour la forme. Et il y aura aussi dimanche à 15h, Albi qui se déplacera à Dijon. Ce sont les quarts de finale aller, hein, je le répète. Donc le retour après à domicile, à l'extérieur pour Blagnac et à domicile pour Albi. Mmh. Voilà pour la Fédérale 1. On parle quand même de rugby à 13, parce que là, les matchs s'enchaînent pour le Théo. Ils ont joué vendredi, c'était une défaite à Sheffield, une lourde défaite 44 à 16 face à un concurrent direct, mais ils se sont repris cet après-midi. Ils accueillaient Halifax qui était 8e et le Théo l'a emporté 56 à 4. Donc petite victoire.
Ça va.
Petite victoire, 56 à 4 pour le Théo. C'était la 11e journée et il y aura donc un autre match à domicile à suivre cette semaine. Ce sera samedi à 15h30, le Toulouse Olympique qui reçoit York City. Voilà, ils vont toujours bien, le Théo. On s'inquiète pas pour eux, ils sont deuxième.
Tout va bien. Un petit mot de football avec la plutôt bonne performance du TFC hier contre un Lille moyen.
Mais une bonne performance. Qui offre le titre au Paris Saint-Germain. Ouais. C'est pas n'importe quoi, effectivement, et qui a tenu en échec le second, Lille, sur sa pelouse 0-0. C'était effectivement hier. Une performance plutôt pas mal du TFC. On écoute tout de suite le gardien Baptiste René qui a fait un très beau match.
C'est un bon point contre une très grosse équipe qui va certainement se qualifier pour la Ligue des Champions. L'objectif du match était de ne pas avoir de regrets, de tout donner. Et je pense que cet après-midi, ça a été le cas. Personne n'a triché, tout le monde s'est donné à 100%. Tout le monde a mis toute l'énergie qu'il avait en lui pour réaliser un résultat. Maintenant, il va falloir continuer comme ça, on est sur la bonne voie. Et comme vous l'avez dit, il nous manque quelques points pour se maintenir, donc j'espère que ça va se faire rapidement. Ils ont eu des situations, on a eu des situations, donc après c'est, voilà, c'est compliqué de se prononcer à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on touche deux fois le poteau. Mike fait un super barré sur la deuxième frappe de Max, il me semble. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir pris un point contre Lille. On a pu voir à la fin que les supporters étaient contents de notre match, ils ont applaudi, donc ça veut dire qu'on a tout donné et c'est ça le plus important.
Voilà, une bonne opération quand même pour le TFC dans la lutte pour le maintien. Ils ont 36 points, 8 points d'avance sur le barragiste. Donc ils sont bien lancés, mais attention, déplacement à Saint-Etienne ce dimanche à 17h. Saint-Etienne 4e est très en forme. Voilà, ce sera à suivre sur BeIN. Un pour ceux qui ne peuvent pas aller à Saint-Etienne, ils sont nombreux j'imagine. Un mot de national parce qu'on a notre invité quand même tout à l'heure. Rodez ne jouera pas ce week-end, mais Rodez l'a emporté et a honoré le fait qu'il soit promu. Hein. Ils ont gagné sur la pelouse de Bourg-en-Bresse 2-0 dans le cadre de la 31e journée. Il reste 3 matchs au Ruthénois pour être champion de national. Ce serait sympa. Ils ont 7 points d'avance sur Chambly, donc c'est plutôt bien parti.
Avec un but de Loïc Poujol, un ancien Sochalien. On va en parler un petit
et
peu.
Et voilà,
je pense, tout
il,
à
fallait, il fallait le dire. Et bien je croyais qu'on était en retard, il me semble
et
pas.
Et hein. On va bientôt passer avec notre invité Lionel Mbassi, le gardien de but de Rodez.
Voilà.
Un mot de basket.
Bah oui, de basket féminin pour dire que nos Toulousaines vont entamer leur quart de finale pour la montée en D1 féminine, enfin en Ligue féminine. Plutôt, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça va jouer au meilleur des trois matchs et le premier match sera samedi à 20h face à Reims pour le TMB. Donc en quart de finale, un petit mot aussi pour dire que dans la Ligue féminine numéro 1, hein, on a les Tarbes qui étaient en lice et elles qui sont éliminées malheureusement au stade des quarts de finale après leur deuxième défaite en deux matchs face à Lyon. 82-61 à Lyon, là. Donc voilà, c'est terminé pour les Tarbes.
Et un mot de handball, défaite plutôt logique du Phoenix face à Nantes.
Logique, mais un peu lourde quand même. Hein, 32-25 oui. Sur son parquet, enfin dans sa salle. Donc c'est un petit peu lourd pour les Toulousains qui terminent la saison en roue libre. C'était la 21e journée et ils ne joueront pas ce week-end.
Merci Lucas et nous on passe tout de suite au débat de la semaine.
Sportez-vous bien. Le débat.
La saison 2019 nous offre du spectacle, des grosses performances pour les Français. Les coureurs se préparent pour les courses importantes, le Giro, le Tour de France bien évidemment. Messieurs, on ne répond que par oui ou non. Et ensuite, on débat, vous commencez à avoir l'habitude. Est-ce un début de saison en trompe-l'œil, Timothée Rouvière?
Oui.
Mehdi Guiono?
Non.
Et Lucas Cerdic?
Non.
Alors, Timothée Rouvière, pardon, vous êtes le seul à dire oui. En quoi c'est un trompe-l'œil ce début de saison? Il y a quand même de très grosses performances, il y a du suspense, il y a tout là pour l'instant.
Alors oui, je suis un peu critique, c'est vrai, envers ce début de saison. Mais moi, le constat que je fais, c'est qu'à part Julien Alaphilippe qui... alors oui, il est vainqueur d'Estrade Bianche, il est vainqueur, je crois...
2000 ans sans Remo.
Mais derrière, ça a du mal à enchaîner. Au niveau des sprinteurs français qui avaient un bon niveau il y a 2-3 ans, je pense à Arnaud Démarre, je pense à Brian Coquart, je pense à Nasser Bouhanni, ils ne font plus de résultats dans les grandes courses. Pour le général, on voit que Pinot et Bardet ont eu des débuts de saison contrastés, soit par des contre-performances, soit par des chutes. Et la relève, alors je pense à Pierre Latour qui est actuellement blessé, ça a du mal à venir. Donc oui, on n'a jamais eu de Français vainqueur de Milan, on n'a jamais eu de Français comme Julien Alaphilippe qui surperforme en début de saison. Mais moi, c'est plus derrière que j'ai du mal. Donc pour moi, c'est un début de saison trompe-l'œil.
Lucas Cerdic, pas d'accord?
Non, pas d'accord. Romain Bardet a axé sa saison sur le Tour de France comme chaque année. Donc là, pour l'instant, il est un petit peu, voilà, il se prépare tranquillement. Il n'est pas non plus complètement à la rue puisque on l'a encore vu là sur l'Amstel Gold Race. Il fait 9e. Thibaut Pinot a bien démarré la saison. Il a gagné le Tour du Haut-Var, si je ne dis pas de bêtises. Il est pas mal, Thibaut. Non, ça va. Moi, je suis plutôt satisfait. Effectivement, il y a Julien Alaphilippe qui crève l'écran. Au contraire, il permet.
C'est l'arbre qui cache la forêt ou pas?
Non, je dirais qu'il permet justement aux autres de se préparer peut-être un peu plus sereinement. Il y a peut-être un peu moins d'attentes sur les autres Français, vu que Julien Alaphilippe prend toute la lumière à lui. Arnaud Démarre, on sait très bien qu'effectivement, s'il peut empocher une classique ou une semi-classique, il va pas s'en priver, mais c'est pas son objectif principal. On peut pas dire que Arnaud Démarre qui gagne pas Paris-Roubaix ce soit une déception, par exemple. Arnaud Démarre, ce sera une déception s'il gagne pas une, deux, trois étapes sur le Tour de France. Là oui, on sera triste, c'est là qu'on va l'attendre. Nasser Bouhanni, c'est pareil, s'il peut en claquer une sur le Tour de France, sa saison sera réussie. C'est pas maintenant qu'on attendait les Français, on attendait Julien Alaphilippe sur le but de saison. Il a répondu présent, très content.
Mehdi Guillaume.
Juste pour Demar, ça sera sûrement sur le Giro, parce qu'il fera le Giro, et donc souvent le Giro ne va pas avec le Tour de France. Donc justement, s'il gagne une ou deux étapes sur le Giro, il aura pratiquement
le Giro, il y a moins qu'il en gagne même plus que deux. Hein,
ouais, c'est voilà. Ça. Le plateau est peut-être un petit peu moins relevé. Mais sinon, sur l'ensemble, ouais, je suis assez d'accord avec Lucas Cerdig. Il y a eu quand même quelques révélations, notamment Florian Sénéchal, qui fait partie quand même de l'armada de Koenig Quickstep, qui est la plus grosse équipe de course flandrienne de classique. Et rien que faire partie des 9 ou 10 coureurs qui tournent sur les classiques, bah c'est presque déjà
top 10 à Paris-Roubaix.
Et donc ça fait partie de ces révélations-là. Il y a eu aussi quelques jeunes, Élise Gébert, qui sont montrés, Adrien Petit. Donc il y a eu, non, c'est
Madouas, on a dit.
Madouas, on en a parlé. David Gaudu en tout début de saison, mais c'est
David
un peu Gaudu, la même
attention
saison
à lui, hein.
Que Pinot. En fait, ils ont fait un bon début de saison et là ils sont en repos, ils attendent le tour de toute façon.
Voilà.
Donc on ne peut pas en dire grand-chose.
Barguil, il a quand même eu pas mal de chutes, pas mal de blessures, mais c'est pareil, c'est cet été qu'on va l'attendre. Barguil, Calmejane, il se fait sa petite préparation tranquille, pareil, il découvre des courses, il emmagasine pour plus tard. Là, on a une génération de coureurs entre 22 et 27 ans, tellement énorme. Ouais. Tout ce qui se passe là, à mon avis, c'est de bon augure pour la suite. D'ici 4-5 ans, on va avoir des Français qui pourront briller sur tous les tableaux. C'est génial.
Là, on parle des Français, on accentue beaucoup sur les Français, mais d'une façon générale, Timothée Rouvière, c'est vrai que les grands favoris des différents tours, des grandes spéciales ne sont pas forcément là ou...
Alors c'est vrai qu'on en attendait beaucoup de Peter Sagan, triple champion du monde, qui... Alors, je dirais pas que Peter Sagan a raté son début de saison parce que
c'est prévu finalement pour les
alors,
pour cette
est-ce que c'est une gestion de course, une gestion de calendrier, on peut se poser la question. Je dirais pas que c'est une saison ratée de Peter Sagan qui quand même figure la dans le final à chaque fois dans les classiques, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir Sagan gagner tout. Et là, le fait de le voir craquer dans le carrefour de l'art à Paris-Roubaix ou ne pas monter sur la boîte lors des autres classiques flandriennes et ardennaises, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Après, concernant Alejandro Valverde, qui est champion du monde, c'est vrai que à 37 ans, il commence à être vieillissant. Il a fait quand même 65e sur l'Amstel, ce qui est assez inédit. Donc c'est vrai que Valverde, on l'attendait pas forcément, mais
Froome du Moulin, pareil, c'est pas trop là.
Froome du Moulin, c'est des coureurs de général. Donc là, ils se testent un petit peu. Je sais que Froome est
ils se mettent en route justement pour
ça va commencer là, il y a le Tour des Alpes.
Donc voilà, ils commencent, ils préparent leur saison tranquillement, mais on la verra vraiment durant le Tour de France. Et peut-être durant le Giro.
Pour revenir sur Peter Sagan, effectivement, il nous a tellement habitués à avoir déjà presque 10 victoires à ce moment-là de la saison que là, je crois qu'il n'en a qu'une seule. Ça fait un peu tâche. D'habitude, dès le Tour de Californie, il en claque quelques-unes. Après, il y a peut-être une saison de décompression là, pour Peter Sagan qui était à la recherche de son premier grand monument et qu'il a eu
l'année dernière.
Il
a été malade aussi.
En plus, il a été malade effectivement en début de saison. Il a gagné Paris-Roubaix l'année dernière et je pense que ça l'a libéré d'un poids et que maintenant il a peut-être il a peut-être pensé sa saison différemment, il a peut-être un pic de forme qui va arriver plus tard, on verra ce que ça lui permet de faire. Je vois pas effectivement quel type d'objectif il peut se donner dans cette configuration là de saison, mais bon, il y a que lui qui sait. Et de toute façon, même avec son talent naturel, comme on le dit, il arrive à faire des top 10 sur les grandes classiques, c'est pas non plus un début de saison complètement raté.
On est d'accord pour dire, messieurs, que là les coureurs sont en train de se tester pour le Giro qui va avoir lieu le 11 mai, il va y avoir le Critérium du Dauphiné le 9 juin et bien évidemment le Tour de France qui va démarrer le 6 juillet. C'est la préparation, c'est pour ces trois épreuves, trois compétitions, en sachant qu'ils vont pas tous les faire. C'est quasiment impossible de faire les Giro et Tour de France par exemple.
Ben là, il y a la plupart des coureurs, soit ils font les Ardennaises et ses repos pratiquement jusqu'au Dauphiné et après donc Tour de France, Dauphiné ou Tour de Suisse en général. Et sinon, bon, certains arrivent à enchaîner Ardennaises et Giro, mais c'est plus rare. Mais ouais, cette année, moi je trouve qu'on a quand même vu, alors c'est depuis l'année dernière, mais en fait des nouvelles têtes d'affiche. Les Miguel Angel Lopez, bon, ça fait 1-2 ans, les Simon Yates aussi, qui vont pouvoir un petit peu concurrencer Froome, et je pense que le vélo en avait besoin.
Ouais, bah on a Egan Bernal aussi. Hein. Attention, hein, on a du très très jeune là. Et puis sur les classiques, c'est rafraîchissant aussi. Alaphilippe, c'est jeune, qui gagne son premier Milan Sanremo. Bettiol, sorti de nulle part, 25 ans. Première victoire en World Tour. Et c'est le Tour des Flandres, attention. Van der Poel, effectivement, qui en claque une là. On a une super nouvelle génération. Au milieu de ça, il y a Philippe Gilbert et ses 36 ans qui arrivent à s'imposer sur Paris-Roubaix pour la première fois. Magnifique. Mais bon, devant un mec qui a 25 ans et qui s'appelle Nils Polite, une course qui a été animée par Wout van Aert, qui est tout jeune aussi. On a une grosse, grosse génération qui arrive là.
Oui, voilà, pour rebondir sur ce que vous dites, Lucas, c'est vrai que c'est des courses qui sont pleines d'incertitudes. On n'est pas comme aux années auparavant où on avait Sagan, Van Avermaet, Gilbert,
Cancellara,
Bonnen, qui on savait que c'était un de ces 5 ou 6 qui allait gagner. Là, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a des échappées, il y a des faits de course. Et c'est vrai que ça met un petit peu du piment à cette début de saison. Vous parlez de Wout Van Aert et de Mathieu Van Der Poel qui, eux, sont triple champions de monde de cyclo-cross chacun et qui montent sur le circuit cycliste classique.
C'est
rafraîchissant et qui remporte plutôt des belles victoires, donc ça fait plaisir à voir.
Van Der Poel qui sort à 56 km de l'arrivée hier, personne n'aurait fait ça en étant favori, personne aussi n'y aurait cru toujours à 5 km de l'arrivée quand ils avaient presque une minute de retard, et lui il fait les deux et il gagne, c'est chouette.
On est dans une génération, on commence à avoir une génération de cyclistes de très très haut niveau, et on s'attend à ce que dans 3-4 ans ce soit l'une des meilleures générations de l'histoire du cyclisme, ou c'est trop tôt pour le dire encore?
Je pense qu'on est peut-être même déjà dedans, une lutte, enfin au niveau des noms, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont plus de 30 ans et qui sont en train de faire le général. Les coureurs qui jouent le classement général sur les grands tours sont en général plus âgés, autour de 30, même jusqu'à 35. On se souvient de
C'est pour ça que je parlais d'expérience tout à l'heure avec Alaphilippe.
Mais c'est plus le cas.
Sur le coup de cœur.
Mais c'est moins le cas parce qu'il y a beaucoup de coureurs. On n'a pas parlé de Quintana, lui, à 30 ans, mais il y a les Kreuzweig, il y a Roglic. C'est des coureurs qui ont aussi moins de 30 ans et qui vont jouer le classement général sur les grands tours et qui risquent d'être faire au moins top 5 et d'être des acteurs de ces grands tours-là.
Timothée Rouvière.
Moi, j'ai quand même de l'espoir pour la suite. On a souvent évoqué le fait que la Sky et les grosses équipes cadenassent les grands tours. Et là, on voit un garçon comme Mathieu Van Der Poel qui fait partie d'une équipe qui est en deuxième division et qui arrive à performer. Donc après, c'est vrai que le format de course se prête à ces scénarios un petit peu qui sont pas déjà écrits.
Il y a un coureur de moins aussi depuis l'année dernière.
Le fait que qu'il y ait tous ces aménagements.
Ce qui est sûr, c'est que ce genre de dynamique dans les grands tours, on se plaint souvent de la redondance, c'est-à-dire semi-montagne, montagne ou sprint est terminé. Non, maintenant on essaie aussi de faire des étapes qui sont un petit peu à rebondissement aussi, comme ça, qui peuvent offrir presque des semi-classiques sur des étapes, et ça c'est très rafraîchissant aussi, et ce genre de coureurs peuvent être intéressés par des Tours de France du coup, dans la perspective de jouer ces étapes là en tout cas d'y concourir. Ça annonce franchement de belles années de cyclisme devant nous, et on l'espère en plus plus propre qu'avant.
Voilà. Un mot sur le Tour de France, on va quand même en parler, ça reste tôt, messieurs, pour terminer là-dessus. Quel favori se dégage sur à 2 mois, 3 mois, on va dire, 3 mois de...
C'est difficile, hein. C'est difficile là, parce que...
C'est trop tôt pour le dire.
C'est pas trop tôt, enfin si, presque trop tôt, mais on a les courses d'une semaine là qui vont arriver et qui vont être vraiment déterminantes. Si on doit s'arrêter là, on peut pas parler de la forme de Froome, ni de Thomas, ni de Quintana, même si Quintana quand même il a montré 2-3 petites choses déjà. C'est difficile. Moi je mettrais un gros outsider qui est Bernal aujourd'hui, ça me paraît évident, mais bon, il est dans une équipe qui pourra peut-être pas jouer le général, en tout cas sa carte à fond. Froome sera surveillé comme toujours, et nos Français, Pinot, Bardet, ils seront dans le coup aussi, j'imagine.
Mehdi Guillonneau, d'accord.
Moi je pensais justement aussi à Egan Bernal, mais il fera le Giro. Donc pareil pour le Tour du Moulin, si on va sur le Tour de France, lui ça sera plutôt le Giro, mais sinon Chris Froome gagnera je pense en juillet.
Et vous Timothée?
Tout à fait d'accord avec vous, juste une chose à dire, je pense que Geraint Thomas n'arrivera pas à gagner le Tour cette année, c'est Froome principalement pour la Sky, et on verra nos Français, on espère.
Je me mouille avec Quintana, moi je dis Quintana cette année, c'est son année.
Ah, j'aime quand on prend des risques comme ça. Merci messieurs, nous on se retrouve maintenant tout de suite avec notre invité de la semaine.
Portez-vous bien, l'invité.
Notre invité est un gardien de but, un peu comme Lucas Erdic, mais lui il joue au Rodez Aveyron Football, et il est tout naturellement tout juste promu en Ligue 2 la saison prochaine, passé par le Paris Saint-Germain et le Toulouse FC. Lionel Mpassi va découvrir le monde professionnel, même s'il l'a bien évidemment touché dans sa jeune carrière. Lionel, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Déjà assuré de monter en Ligue 2, tout d'abord, bien évidemment, félicitations pour cette accession historique pour Rodez. Victorieux 2-0 à Bourg-en-Bresse, on va le dire clairement, on va rentrer vite dans le sujet. L'objectif, c'est clairement d'avoir le titre de champion de national en fin de saison.
Bah ouais, franchement, là, ça serait la grosse carotte. Déjà, on a eu une bonne carotte avec l'ascension en Ligue 2. Mmh. Et là, c'est clairement notre objectif de cette fin de saison. Il nous reste 3 matchs et c'est clairement l'objectif. Ouais.
3 matchs, 7 points d'avance.
C'est quasiment bon. Quoi.
Une victoire à domicile et c'est bon.
Et on espère une victoire à domicile sur le prochain match contre Drancy, mais dans le foot, tout peut arriver. Du coup, on verra bien, mais ouais, on espère.
Le plus important, vous l'avez dit, c'est la montée en Ligue 2. C'est difficile finalement de se remettre dedans. Alors on a vu qu'il y a une victoire quand même à Bourg-en-Bresse ce week-end, enfin vendredi. Mais c'est quand même dur de se remettre dedans à l'entraînement juste après l'accession en Ligue 2, de se dire bon, il reste encore 4 matchs à ce moment-là, il faut réempiler encore, ou finalement c'est du plaisir, c'est naturel.
Bah à vrai dire, on en parlait la semaine qui a repris. On a l'impression de toujours pas y croire. Du coup, on a profité après le match, les 2 jours qui ont suivi le match, mais le lundi, dès la reprise de l'entraînement, on s'est tous remis au travail. Et comme si de rien n'était, même si on savait qu'on était en Ligue 2, mais ça n'a pas changé. L'exigence était là. On a fait une super semaine d'entraînement et ça s'est vu le week-end contre Bourg.
Est-ce que, pour nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas trop Rodez, l'objectif en début de saison, c'était quoi? Vraiment la montée en Ligue 2? C'était le maintien en National? C'était le milieu de tableau? C'était quoi l'objectif?
Bah, à vrai dire, on s'était pas donné vraiment d'objectif. On sortait d'une bonne première saison en National parce qu'on venait d'être promu. Oui. On n'était pas passé très loin de la montée en Ligue 2. Et du coup, on avait eu pas mal de joueurs qui étaient partis, pas mal de joueurs qui étaient arrivés. On avait une préparation un peu inquiétante. Et du coup, nous, dans nos têtes, c'était le maintien. On espérait se maintenir en premier lieu. Et après, on aurait vu, mais la saison s'est super bien passée et on est tous super contents.
Et c'est souvent plus beau quand c'est dans l'inattendu, je l'imagine.
C'est clair. Bah ouais, bah moi, franchement, ça fait 3 ans que je suis au club maintenant, et depuis 3 ans, c'est la même chose, c'est de l'inattendu, on passe des super moments et on profite.
Donc si on suit la logique, et un peu la logique d'Arles Avignon, d'Evian Thonon-Gaillard, de Strasbourg, vous me voyez venir là. En général, ouais, une équipe qui monte en Ligue 2 monte tout de suite en Ligue 1. Oh, c'est l'objectif, bien évidemment.
on va pas se mentir, franchement, ça nous passe par l'esprit, mais... on va pas s'enflammer. Déjà, là, il reste 3 matchs
vrai,
en national.
On va trop loin.
On va très bien finir la saison, bien profiter des vacances et repartir dans le boulot dès la reprise.
Question d'un chroniqueur, Lucas Serdic.
Oui, en plus, vous allez garder, il me semble, une bonne partie de votre effectif. Hein. Les dirigeants ont bien préparé le coup et le but, c'est pas de dépeupler l'équipe pour l'année prochaine et de continuer sur votre lancée.
Ouais, c'est exactement ça. Après, le coach, il a une certaine politique. Depuis que je suis au club... l'ossature du groupe a été gardée, il y a la majorité des joueurs qui sont restés. Après, il y a eu du changement, forcément, mais c'est tout à fait normal comme partout. Mais ouais, le coach, il part vraiment dans l'optique de garder son noyau, une bonne partie du groupe, et après ajouter des plus-values, et puis voilà.
À titre personnel, vous allez découvrir le monde pro. Alors, voilà, pour les auditeurs, vous êtes passé par le Paris Saint-Germain, par le TFC pour les équipes réserves et les centres de formation. Donc le monde professionnel, vous l'avez touché. Le National 1, c'est semi-pro. C'est juste le statut qui change pour expliquer à nos auditeurs. Mais sinon, comme les pros, vous entraînez tous les jours et tout le temps, toute la semaine. Mais on y pense déjà à ça, d'avoir le statut professionnel, de jouer dans des stades. J'imagine que pour vous, il faut que Lens ne monte pas en Ligue 1. Comme ça, vous pouvez aller à Bollard l'année prochaine.
Ouais, c'est clair, ça serait génial d'aller jouer à Bollard. Après, moi, je prends ça un peu comme une petite revanche, parce que ouais, j'y ai goûté à peu près au monde pro quand j'étais à Toulouse. J'avais un contrat professionnel, mais j'étais pas à part entière dans le groupe. Du coup, c'est un peu une revanche par rapport à ça, et je vais enfin pouvoir découvrir ce qui est vraiment le monde pro. Ouais.
C'est une petite victoire personnelle, vous venez de le dire. Ça fait quand même du bien au moral. On se dit finalement, on n'a pas fait tout ça pour rien, j'imagine.
C'est clair. Bah ouais, on n'a pas fait tout ça pour rien. Bah, j'en parle souvent avec Florian David, là, qui est avec moi aussi à Toulouse. On a eu à peu près le même parcours. On avait signé professionnel 1 an tous les deux à Toulouse. Mmh. Et on n'a pas été conservés. On s'est retrouvés à l'UNFP. Et de là, nos chemins se sont séparés. Et comme par hasard, là, on se retrouve cette année.
C'est fantastique.
Et on monte en Ligue 2 ensemble.
Lucas Serdic.
Oui, j'ai envie de revenir un tout petit peu sur votre saison. Vous aviez dit que ce n'était pas programmé, et c'est vrai. On sait que le stade, par exemple, il y a eu des travaux qui ont été lancés. Ça aurait été peut-être plus l'année prochaine que vous alliez viser la montée. Mais tout de même, avec les résultats, à un moment donné, vous étiez en course. À quel moment vous y avez vous avez commencé à y croire, vraiment, vous dire ça y est, c'est bon, ça va être pour nous cette année?
Bah, je pense qu'on a commencé à y croire, on a eu une semaine décisive, enfin 3 matchs. On avait enchaîné à la maison, je ne sais plus qui est-ce que c'était. Après, le mardi, on était parti à Drancy.
Et oui, ce match
et
à Drancy.
Et le samedi,
oui.
on avait été au Mans. Et là, c'était la semaine décisive. Sur cette semaine, on s'était dit que ça serait bien de faire 7 points, 2 victoires, un match nul. Et là, on avait fait 3 sur 3. Et là, on commençait à vraiment se dire que on pouvait prétendre à y aller vraiment.
Le monde professionnel arrive donc dès l'année prochaine avec une énorme chance. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais j'espère pour vous, vous irez jouer au Stade Bonal à Sochaux, bien évidemment. certains joueurs ont connu le monde professionnel. Vous en parlez avec eux de ça?
Ouais, on en parle. Il y a pas mal de mecs dans notre groupe qui ont de l'expérience, qui ont connu soit le monde pro ou soit qui ont fait des longs parcours en Coupe de France. Je pense oui. à Pierre Ruffaut, qui nous fait souvent des discours sur son expérience. Mais ouais, on en parle souvent. Et les mecs, ils nous disent, c'est un truc de ouf, c'est incroyable. ils nous ont dit ça tout au long de la saison. C'est pour ça, ça aide beaucoup.
Et bon, bien évidemment, c'est un sujet un petit peu sensible. On va bien évidemment en parler. Promis, pas beaucoup de questions. Voilà, Rodez est promu en Ligue 2, ça c'est pour le terrain. Mais il y a un petit problème, entre guillemets, qui se pose, c'est pour le stade. Il y a des rénovations à faire pour les mettre aux normes de la Ligue de football professionnel pour Rodez. Et la saison prochaine, pour l'instant, pour débuter la saison prochaine, il y a débat. Bastia, Istres, le Stadium de Toulouse. On entend Guignon. Un peu tout. Guignon également. On entend un peu tout et n'importe quoi. Comment vous prenez ça dans le vestiaire, vous?
Bah, franchement, on s'en occupe pas du tout. Nous, on reste vraiment focus sur le terrain. On profite de tous les moments. On partage les moments. Bah, après le match de Boulogne, on a profité avec les supporters. C'était un incroyable engouement. Du coup, nous, on profite à fond de ce qui se passe pour nous. Et ça, on n'en parle vraiment pas du tout. On n'est pas...
Et malheureusement, à l'heure actuelle, on parle plus du stade de Rodez plutôt que de la performance pure que de vous, les joueurs, qui est de monter en Ligue 2. Est-ce que c'est pas vexant pour vous, les joueurs?
Et non, ouais, pas du tout. Pas du tout, parce que nous, bien sûr qu'on lit la presse, on voit qu'il y a nos têtes. Ben, on l'avait tous acheté, le journal du lendemain.
J'imagine.
Sur ce sujet-là, pas du tout. Nous, franchement, on est vraiment dans notre bulle, on est concentré. Il nous reste 3 matchs, on est concentré sur ce qu'on a à faire sur le terrain. Et tout ce qu'il y a administrativement autour, on s'en occupe pas du tout.
Lucas Serdic.
Ouais, une dernière question là-dessus. On sait que les travaux ont commencé. On sait aussi, malheureusement, dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, qu'on a un précédent et un truc un peu traumatisant avec l'UZNAC, qui avait malheureusement pas pu monter en Ligue 2 à cause de ce problème de stade. Alors, on sait bien que la présidence à Rodez a bien anticipé les choses, et c'est tout à son honneur. Normalement, il ne devrait pas y avoir ce problème. Mais est-ce que quand même, on y pense? Est-ce qu'on se dit, mince, ce serait quand même dommage que ce soit gâché à cause de ça?
Ah non, pas du tout, pas du tout. Franchement, nous, là, on pense à la fin de saison et on parle que de la reprise. Tout le monde est vraiment déterminé et tout le monde sait qu'on jouera en Ligue 2 l'année prochaine et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais on n'a pas de peur, on n'a pas de crainte. On n'est vraiment pas dans cette optique-là. Ouais.
Et à titre personnel ou même dans le groupe, on préférerait jouer sur l'île de Beauté ou quand même à Toulouse?
Franchement, nous, ça nous est égal tant qu'on est en Ligue 2. Je ne sais pas. On n'en a pas discuté, hein, je vous mens pas. Mmh. Mais
ouais, vous verrez bien, vous vous adapterez.
Ouais.
Et les supporters aussi.
Justement, un mot sur les supporters, sur la saison. Ils ont été vraiment là. Ça a vraiment été incroyable cette saison avec les supporters de Rodez. Ce sont des vrais supporters. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette. Il va y avoir cette envie, j'imagine, de tout de suite revenir, sans parler du stade, hein, que ce soit Guignon, Bastia ou Toulouse. Mais j'imagine qu'il va y avoir une envie pressante de jouer son premier match en Ligue 2 dans le vrai stade de Rodez, j'ai envie de dire.
Bah ouais, c'est exactement ça. Franchement, les supporters à Rodez, l'engouement autour de l'équipe, il est énorme. Franchement, c'est incroyable. Depuis que je suis là, moi, depuis 3 ans, je joue à domicile, c'est un régal. Il y a du monde qui vient nous voir, ça se supporte. Même quand on joue à l'extérieur, les supporters nous suivent. Du coup, ouais, le premier match qu'on jouera à Rodez en Ligue 2, ça sera le feu, on a hâte.
Et ça sera fort en émotion, j'imagine.
C'est ça, c'est exactement ça.
Comment vous avez vécu là, cette fin de saison avec, enfin, moi j'avais lu des interviews notamment de votre coach qui avait dit par exemple le match de Laval on l'avait pas regardé pour savoir si Laval perdait au Mans, vous étiez promu. Est-ce que vous l'avez suivi avec les joueurs ou est-ce que vous êtes resté dans votre bulle à ce moment-là?
Non, on est resté dans notre bulle. Bah surtout que c'était nous on avait joué le jeudi. Du coup, Laval, je crois que Laval Le Mans, c'était le samedi.
Exact, c'était le samedi, ouais.
Du coup, tout le monde était à droite, à gauche, tout le monde profitait un peu, était beaucoup en. Et moi, en plus, j'avais joué avec la réserve ce jour-là. Du coup, on savait qu'il fallait tracer notre route. Ça tenait qu'à nous. De toute façon, si on continuait à gagner des matchs, on serait plus vite en Ligue 2.
Il y a eu l'accession en national il y a 2 ans, vous l'avez dit. C'est la même émotion ou le fait de toucher le statut professionnel, c'est quand même 2-3 crans au-dessus? Ou bah, chaque accession, chaque montée est pareil?
Bah moi, j'ai envie de vous dire que chaque montée est pareille, t'as les mêmes émotions. Après, là, je pense que c'est un peu plus, tu reçois beaucoup plus de messages, de félicitations parce que tu touches au monde professionnel. Mais je pense qu'on était contents pareil. Là, les gars qui sont partis, je m'en rappelle, on avait fait une fête aussi incroyable. C'était magnifique d'atteindre le niveau national. Mmh. Mais là, la Ligue 2, c'est un niveau au-dessus encore. Du coup, je pense que c'est un peu plus dans l'émotion.
En 30 secondes pour terminer, parce que c'est leur tourne, leur passe, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison, j'imagine? Et on l'a dit un petit peu en début d'interview, c'est le titre bien évidemment de champion de national.
Et de rester aussi solide, de ne pas prendre de but, parce que vous êtes solide en défense quand même à Rodez. Hein.
C'est ça. Bah, c'est un peu notre identité, qu'on est une équipe assez solide, on a beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. Du coup, c'est ça qui nous fait avancer depuis toujours. Et nous souhaiter de rester solide, d'aller chercher le record de points parce que ce serait gratifiant pour nous. Et nous souhaiter de gagner les 3 matchs restants.
Et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup Lionel Mpassi, merci d'avoir été avec nous sur Radio Présence. Nous on se retrouve lundi prochain, à lundi sur Radio Présence.
Un euro. C'est le prix d'un journal quotidien. À combien estimez-vous le prix d'une présence à vos côtés 24 heures sur 24? Donnez